Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast PMI France en scène. Le podcast qui permet de décrypter l'univers passionnant de la gestion de projet avec des leaders reconnus de la communauté PMI France. Je suis Soufiane Abouliatim, Social Media Manager et bénévole au PMI France. Chaque dernier dimanche du mois, nous vous présenterons un invité avec qui nous aurons des conversations pour tous, que vous soyez un chef de projet expérimenté ou en découverte de ce merveilleux univers, vous trouverez de l'intérêt à nous écouter. Nous partagerons des idées et les leçons apprises avec notre invité et bien sûr des key takeaways que j'espère vous seront utiles. Belle écoute à tous.
Aujourd'hui, je reçois Bruno Dussente, président de PMI France. Merci Bruno d'avoir accepté cette invitation. Peux-tu nous en dire plus sur toi ?
Merci pour cette invitation et pour cette première. Alors, moi, je suis ingénieur informatique de formation, plutôt spécialisé dans le développement logiciel. Et donc, lorsque j'ai fini mes études, j'ai travaillé pour des sociétés de services, ce qu'on appelle des SS2I, enfin, en tout cas, ce qu'on appelait des SS2I à l'époque et des ESN aujourd'hui. Ils m'ont permis, effectivement, d'acquérir toute cette partie expérience d'un ingénieur développement, ingénieur d'études, puis ensuite chef de projet. J'ai rejoint après des éditeurs de logiciels, notamment dans le domaine du médical et dans le domaine de l'internet. J'ai pris en charge des unités de R&D autour du logiciel justement et des infrastructures. J'ai connu l'explosion de la bulle Internet de l'époque, des années 2000, comme beaucoup, ce qui a été aussi une expérience. J'ai décidé ensuite de devenir indépendant, de m'installer à mon compte en tant que consultant en système d'information et en sécurité des systèmes d'information, oui. Pour accompagner effectivement les entreprises sur leurs problématiques de transition numérique, hein, même si à l'époque ça s'appelait pas comme ça, mais c'était effectivement des éléments très importants. Et j'en ai profité pour faire aussi des interventions dans des écoles d'ingénieurs, des écoles de formation supérieure. Et en 2010, j'ai décidé de créer ma propre entreprise spécialisée dans le développement d'applications mobiles, qui était juste après la sortie de l'iPhone, pour justement proposer des applications mobiles aux entreprises.
Très bien. Alors, PMI France, c'est aujourd'hui environ 5000 membres et plus de 250 bénévoles. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, s'il te plaît ?
Alors effectivement, PMI France, c'est une association qui est très importante et c'est un des chapitres du PMI les plus importants au monde, hein, parmi les 300 chapitres qui existent aujourd'hui au niveau mondial. Ce qui est important, c'est que nous sommes vraiment implantés localement. Hein, on a 30 implantations locales qui représentent 13 branches régionales, 12 en métropole et une branche qui reprend en fait tout ce qui est DOM-TOM et puis les zones effectivement francophones où notamment des expatriés.
Horizon.
Le PMI France organise environ une centaine d'événements locaux, donc sur toute la France. 3 événements nationaux, dont les rencontres du PMI, qui est l'événement le plus important au niveau national avec plus de 500 personnes, sur un jour et demi de conférences et de keynotes, d'échanges et de partage. On a également les PMP Day qui permet d'associer, enfin en tout cas d'aider aux rencontres entre les entreprises et les étudiants à travers leur école, et également les chefs de projet qui cherchent, je dirais, de l'emploi. Et puis l'événement qui est en full distanciel, qui est le PIAF, donc qui est consacré à tout ce qui concerne l'agilité au sens large. Ouais. Ce qu'il faut voir, c'est que le PMI, c'est aussi une quinzaine d'initiatives très importantes, comme le programme Mentorat, comme le Woman by PMI, qui est un programme d'inclusion, le Lab Hybride. On génère énormément de livres blancs. On travaille aussi avec les petits, avec les PMI Education Foundation, avec les écoles primaires ou les collèges. Donc, c'est vraiment en fait autour de, je dirais, du métier de chef de projet, un certain nombre d'événements et d'initiatives.
Très clair. Alors, ça nous fait une belle transition pour un sujet que tu as publié sur l'édito du PMI France de septembre au sujet de l'intelligence artificielle et de l'engagement du PMI dans l'exploration de l'impact de l'IA sur la gestion de projet. J'invite d'ailleurs nos éditeurs à le lire si ce n'est déjà fait. Alors, il est très ambitieux de prédire avec certitude comment le métier de chef de projet évoluera avec l'intelligence artificielle et les technologies, pardon, futures. Comment penses-tu que les professionnels de la gestion de projet peuvent se préparer à un avenir où l'intelligence artificielle jouera un rôle de plus en plus important?
Oui, c'est typiquement des ruptures technologiques importantes. On en a connu d'autres dans le passé, hein, que ce soit, je prends par exemple l'invention de l'imprimerie, mais également la révolution industrielle. Donc, c'est des éléments ou même l'Internet, hein, plus proche de nous. Ce sont typiquement des éléments qui amènent des changements au niveau des métiers au sens large, et je pense qu'effectivement le métier de chef de projet n'échappera pas à cette adaptation, en tout cas cette modification. Donc je dis souvent qu'il y a trois questions que le futur chef de projet doit se poser. C'est en gros qu'est-ce qu'il ne fera plus par rapport à aujourd'hui, en termes d'action, de tâches, qu'est-ce qu'il fera différemment d'aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il fera éventuellement en plus par rapport à aujourd'hui. Donc, comme tu l'as dit, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'est encore compliqué de savoir exactement ce qui va se passer, même si des tendances, je dirais, sont en train un peu de se positionner. Ce qui est certain, c'est que c'est à chacun d'entre nous, à tous les niveaux, de réfléchir à cet avenir, à se forger aussi des réflexions, des convictions, à expérimenter, parce qu'aujourd'hui il y a un certain nombre d'outils, un certain nombre d'éléments qui commencent à émerger. En tout cas, le PMI et le PMI France aident effectivement à réfléchir et à se poser un certain nombre de questions vis-à-vis de cette transition. Ce qui est certain, c'est que il faudra s'adapter. Donc pour cela, ça veut dire qu'il faut comprendre ce que c'est que l'IA, quels sont les enjeux et quels sont éventuellement les impacts. Comme tout changement, il y aura des opportunités à saisir, des opportunités à créer. Et donc, il faudra être un petit peu à l'affût et être un petit peu malin pour essayer de se positionner par rapport à ça. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas le rejeter, parce que de toute façon, c'est inévitable. L'intelligence artificielle sera là et aura un impact. Et puis, il faudra être aussi un petit peu vigilant dans le sens où, comme tout nouveau outil, nouveau comportement, nouvelle tendance, il y a ce qui est positif et il y a ce qui ne l'est moins, ce qui est plutôt négatif. Et ça veut dire qu'il faudra être aussi vigilant par rapport à ces aspects et savoir comment y faire face, comment les contourner, comment, en tout cas, l'utiliser à bon escient. Et je pense, et j'en suis convaincu, pour en avoir déjà discuté avec beaucoup et avoir des retours d'expérience, c'est que l'IA portera des éléments supplémentaires dans l'efficacité du chef de projet, en délaissant peut-être les tâches un peu chronophages et puis qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur. Donc, on pourra s'appuyer sur de l'aide à la décision et que ben, je reste persuadé que le chef de projet de demain sera un chef de projet augmenté, c'est-à-dire qu'il sera encore plus performant qu'aujourd'hui.
Alors, dans ce même esprit, à travers ton expérience et les projets que tu as pu mener, quelles sont les difficultés que l'on pourrait éviter dans la gestion de projet?
Alors déjà, les difficultés, parce que c'est un petit peu le quotidien d'un chef de projet, c'est de faire face justement aux difficultés. Idéalement, c'est de les anticiper plutôt que de les traiter pour corriger leurs conséquences. Alors, je vais peut-être me positionner sur deux difficultés particulières. C'est le premier, c'est d'être vigilant, de ne pas s'enfermer dans l'opérationnel. On a souvent tendance à dire qu'on a la tête dans le guidon. Et quand on a la tête dans le guidon, ben en fait on voit le chemin, mais de façon très court-termiste, quoi. Et donc très souvent on n'arrive pas à anticiper les choses, et c'est le meilleur moyen de, ben, je dirais, de tomber, ou en tout cas d'aller vers l'accident. Donc l'idée, c'est de sortir de l'urgence et de savoir prendre du recul ou prendre de la hauteur pour s'obliger à observer un petit peu le contexte, tout ce qui se passe autour de nous, le chemin tel qu'il se dévoile. Est-ce qu'effectivement il va pas y avoir des virages serrés qu'on arriverait mal à anticiper? Et donc d'analyser un petit peu tous les éléments pour effectivement venir toujours dans cette notion d'anticipation, donc prendre du recul. Et pour cela, un des outils que j'utilise très très souvent, au quotidien même, c'est le questionnement intensif. C'est une aide précieuse pour justement pour prendre de la hauteur sur ce qui peut se passer. Et je le dis souvent à mes équipes, ou même aux étudiants quand je faisais des interventions, c'est que les bonnes réponses aux questions sont moins importantes que les réponses aux bonnes questions. Parce qu'effectivement, on a toujours tendance à vouloir apporter la meilleure réponse possible, mais en définitive, la meilleure n'existe pas toujours. Mais si on se pose pas les bonnes questions, on n'amène pas forcément les solutions, et on va avoir des solutions trop incomplètes ou inadaptées, parce que justement, on ne s'est pas suffisamment posé les bonnes questions, et les questions les plus ouvertes. Donc ça, c'est, je dirais, quelque chose qui est très important. Et dans les difficultés, le deuxième point sur lequel je voulais effectivement l'évoquer, c'est le facteur humain, en fait, hein, parce que c'est un métier quand même qui est très basé sur l'humain. Ça revient aussi sur la partie intelligence artificielle dont on parlait tout à l'heure. Moi, je sais que j'ai fait des rencontres fabuleuses avec des personnes très inspirantes qui m'ont fait grandir et dont je suis énormément reconnaissant aujourd'hui. J'ai travaillé également avec des personnes exceptionnelles sur beaucoup de plans, et avec qui j'ai plaisir à collaborer encore. Mais comme tout le monde, j'ai connu aussi des personnes un peu moins nobles, hein, ce que j'appelle moi les parasites, hein, qui vivent en s'accaparant des réussites, de la réussite en tout cas des autres. Et ceux qui la loyauté, c'est un mot qu'ils connaissent pas forcément, hein, qui sont très volatiles, et la loyauté, c'est pas quelque chose qu'ils connaissent, et donc qui peut très facilement vous bousiller une équipe. Et justement, j'insiste, parce que l'équipe, c'est fondamental pour moi. Le collectif est un facteur essentiel dans la réussite d'un projet, à condition que cette équipe soit composée de personnes motivées, complémentaires et loyales, parce que c'est quelque chose de très important. Donc constituer une équipe, et une bonne équipe, c'est vraiment essentiel, hein, avec ceux qui va par leur énergie vous booster, vous faire progresser, va vous inspirer dans le projet, en essayant d'éviter ceux qui, par leur médiocrité, je dirais, va tenter de détourner ou confisquer votre énergie. Donc voilà, c'est d'être vigilant. Alors il n'y a pas de solution miracle là-dessus, hein, c'est de bien observer aussi les personnes qu'on a autour de soi, et vraiment d'essayer d'identifier le plus rapidement possible, en tout cas, les personnes néfastes, quoi.
D'accord, ok, compris. Alors, dans ce même esprit et dans l'esprit de partage de conseils, que peux-tu donner à une personne qui débute dans sa carrière en gestion de projet en tant que conseil pour l'aider à progresser dans sa carrière?
C'est de savoir s'entourer, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, et puis je dirais, quand on n'a pas d'expérience, il faut aussi acquérir de la connaissance. Et cette connaissance, elle se valide aussi par une reconnaissance. Et ces reconnaissances, souvent, ce sont les certifications. C'est typiquement ce que propose aussi le PMI, hein, puisque ces certifications permettent de valider une connaissance, parfois même des compétences pour une personne qui a justement un peu plus d'expérience. En tout cas, la notion de certification est importante. Alors, c'est comme tout, choisir ça ou ces certifications est quelque chose d'important, puisque la valeur d'une certification, qu'elle soit réelle ou perçue, elle peut varier en fonction de la réputation des organismes de délivrance. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que les certifications du PMI sont des références et des références mondiales, internationales, qui sont reconnues comme telles. Et donc, il y en a un certain nombre aujourd'hui qui sont proposés par le PMI. Parce qu'aujourd'hui, on a 9 certifications, hein, dont le fameux PMP, qui est aujourd'hui, qui représente aujourd'hui plus d'un million quatre de certifiés dans le monde. C'est également 5 certifications, notamment autour de l'agile. Et puis, ce sont 13 spécialisations sur certains domaines en particulier. Et c'est vrai que, pour revenir sur les certifications, il y en a une qui est complètement adaptée pour les jeunes, comme tu disais tout à l'heure, qui est le CAPM, oui. Qui permet effectivement de pouvoir effectivement montrer, ben, je dirais, les acquis que la personne a pu avoir, soit en connaissance, formation et éventuellement en expérience à travers effectivement cette certification. Alors il y a un point sur lequel je voudrais quand même insister, c'est que une certification c'est pas forcément une fin en soi, c'est bien de l'obtenir, mais ensuite comme les choses évoluent en permanence, hein, on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure, qui est une dépendance forte, c'est que ces certifications doivent être aussi, on va dire, maintenues, c'est-à-dire pouvoir, c'est le but aussi des certifications PMI, c'est qu'elles puissent être renouvelées et renouvelées notamment au fait d'assister à des événements organisés notamment par le PMI France, mais des événements au sens large, qui permet effectivement à travers ces événements, mais ça peut être aussi à travers les initiatives que propose le PMI, le fait de participer en termes de volontariat, permet effectivement de pouvoir maintenir ses certifications et puis surtout de s'améliorer et d'accélérer, je dirais, sa carrière professionnelle.
Très clair, très très clair. Bah, je pense qu'on arrive maintenant à la fin de notre entretien. Merci beaucoup Bruno pour cet échange très humain d'ailleurs, et j'espère que nous aurons aidé nos auditeurs à mieux comprendre le PMI et tout ce qui est offert pour un membre du PMI France. Et j'invite nos auditeurs à rester à l'écoute pour nos prochaines sessions. Merci beaucoup, Bruno.
Merci à toi.